Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Théâtre de l'Alliance Française pour Un masque et la plume consacré à l'actualité littéraire estivale avec les Aoussiens de la critique, ma chère Olivia de Lamberterie, Duel, Jean-Louis Zine du Chasse-Marais qui est descendu de bateau pour participer à cette émission, Arnaud Vivian de Transfuge et de Regard et Frédéric Becbédé du Figaro Magazine, Frédéric qui s'est lancé les 11 et 12 juin dernier au Bataclan, dans un DJ set littéraire, mis en scène d'ailleurs par Jérémy Lipman, et tout cela pour fêter tes 30 ans de publication.
En toute humilité.
En toute humilité. Alors, il y a une tournée qui est prévue de, m'a-t-on dit, de 60 dates, c'est vrai, jusqu'à l'automne?
Je ne sais pas d'où vous tenez cette information.
C'est écrit, hein.
Mais c'est écrit, bien, de toute façon. C'est...
Dont un nouveau passage au Bataclan, je le dis pour nos auditeurs, les 23 et 24 septembre.
Voilà.
Comment ça s'est passé? J'y étais pas, les 11
c'était...
et 12.
Ah, c'était très original. Il y avait une ambiance de libération, parce que c'était juste après la réouverture des restaurants. Donc c'était assez drôle, les gens étaient plutôt debout.
Et donc tu lis tes textes, et il y a DJ Pone aussi qui est avec
voilà.
toi, c'est ça.
DJ Pone envoie les sons, et moi je lis des extraits de mes livres, et tout ça dans la joie et la bonne humeur, et un peu la nudité aussi.
Oui. Ah. Jean-Louis te regarde vraiment comme si tu étais un Daft Punk, oui. sans casque.
Voilà, c'est ça. Oui. Hein.
La nudité de qui?
Donc notez bien Bataclan, 23-24 septembre.
Viens en septembre,
presque
tu verras.
On est presque à poil là, hein. Disons la vérité. On parle ce soir des mémoires de l'immarcessible David Niven, de Montand et Semprun, portraituré par Patrick Rothman, de L'arbre de l'oubli de Nancy Houston, des Sœurs de Sable, de Stéphane Héaume, et on vous donne des nouvelles de Nicole Krauss dans le courrier de la semaine à propos du roman de Claudie Gallet Avant l'été chez Actes Sud dont on parlait précisément avant l'été. Cerise met un bémol à ce que vous avez dit. Je ne trouve pas du tout que ce soit comparable à L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Avec tout le respect que j'ai pour Claudie Gallet, j'ai trouvé son roman plat et ennuyeux, tandis que j'ai trouvé L'amie prodigieuse puissant avec une histoire d'amitié complexe. Arnaud Vivian nous écrit, Monsieur Akliman a dit à propos du même roman de Claudie Gallet que le mot tag n'existait pas en 85 et qu'on parlait de graffiti. Or, Arnaud, les deux existaient, on disait graph pour les dessins en couleur et tag pour les signatures en noir et blanc. Et comme on est très bien écouté, David Héranval Mallet de Nantes ajoute, n'en déplaise à Arnaud, le mot tag existait bien en France en 85. Ces tags sont apparus sur les murs des grandes villes en France à partir de 85-86, notamment à Paris, avec l'essor de la culture de rue. Toujours à propos de Claudie Gallet, qui décidément inspire nos auditrices et auditeurs, Frédéric Que, Deltreille apostrophe Frédéric. Quand on adresse des reproches, Frédéric, à quelqu'un, on commence par s'assurer de l'authenticité de ses propres sources. Non, Frédéric Becbédé, la blague de l'homme qui tombe du 17e étage en disant à chaque étage « jusqu'ici tout va bien » n'a pas pour origine la haine de Mathieu Kassovitz.
Mais Boris Vian.
Comme tu l'as dit, non plus. Elle apparaît dans Les Sept Mercenaires et elle est racontée par le personnage que joue Steve McQueen. Bonne continuation au masque que j'écoute depuis toujours avec le plus grand plaisir, même si mon avis va parfois à l'encontre de vos critiques. À propos de Vol au crépuscule d'Hélène MacDonald, Monsieur Doutrelant juge que Patricia Martin a péché par omission quand elle a affirmé que l'ornithologie était un des dons particuliers des artistes anglo-saxons. C'est faire injure à notre Jean Rollin, qui d'ailleurs dénonce dans son roman Le Traquet Kurde le penchant avicide des ornithologues britanniques. J'adore nos auditeurs. Madame Martin oublie également l'hommage inégalé d'Olivier Messiaen à la gent ailée, secondée à cet effet par son épouse, la bien nommée Yvonne Loriot, et signe pan sur le bec.
Et on peut ajouter Ornithologie du promeneur de Dominique Méens, qui était publié oui, chez Alia
absolument.
Et chez POL.
Prodigieux.
C'est une œuvre exemplaire, poétique et philosophique et philologique
absolument.
Sur les oiseaux.
Ouais, ouais. Enfin, plein de messages de remerciements au masque. pour avoir vanté le roman de Jim de Pierrick Bailly chez POL, dont Jean-François Gombert de Digne-les-Bains nous écrit « Cher Masque, c'est toute l'œuvre de Pierrick Bailly qu'il faut saluer », ce qu'on avait fait d'ailleurs, oui. Hein, « L'homme des bois » que vous avez évoqué, mais aussi « Polichinelle », son premier roman en 2008, « Lointain cousin d'Elephant Man » et de « Twin Peaks », ou « Le social, le dispute au fantastique » et « Michael Jackson ». Quel titre ? Sur ces années étudiantes à Montpellier, il faut donc lire, nous écrit Jean-François Gombert, tout Pierrick Bailly, romancier populaire à la culture anglo-saxonne et à l'âme russe. Voilà. Mais c'est vrai que c'était un courrier très abondant de remerciements, comme on n'en reçoit pas toujours au masque, pour avoir conseillé cet excellent roman de Pierrick Bailly. Allez, on commence avec les mémoires de David Niven, traduit chez Séguier par Simone Hilling et Rosine Fitzgerald. Un livre que j'ai inscrit parce qu'il frôle pour Jean-Louis les 1000 pages.
Tout à fait.
Et que Jean-Louis est fan de Hollywood. Donc cet anglais so british, 1910-1983, ouais. Qui porte le kilt et la moustache comme personne, officier d'un régiment écossais devenu prince de Hollywood, a été, je le rappelle, notamment, hein, le Phileas Fogg du Tour de Monde en 80 jours, le Major Pollock de Table Séparée, le James Bond de Casino Royal, le Colonel Matthew, ça c'est pour Jean-Louis, du cerveau de Gérard Houry, ah, ou encore Brian. Le fantôme de la Panthère Rose. Et dans ses mémoires, il raconte sa vie aventureuse, d'abord militaire, ensuite artistique, ouais. Et les quelques 100 films qu'il a tournés alors que rien ne le destinait au cinéma. Et puis il livre, à mon goût en tout cas, un des meilleurs portraits de Hollywood qu'on ait jamais lu. Le livre avait paru, il faut dire, en 2 volumes chez Lafon, oui. Dans les années 70. Et donc ses mémoires sont rééditées dans un seul volume pour ce qui me semble être une lecture d'été ou du mois d'août assez idéale, non Jean-Louis ?
Oh ben là, j'ai adoré. C'est...
T'as découvert ?
Ah oui, j'ai découvert. Mais moi je connaissais le cerveau, the brain. Et là j'ai compris pourquoi cet homme-là avait la tête plus lourde et... Elle avait la tête tellement lourde qu'elle sombrait sur son épaule dans le film tout le temps. L'humour, incroyable. C'est quelque chose de... J'ai adoré sa carrière militaire et surtout la façon dont elle se termine. Je ne sais pas si vous avez noté, elle se termine dans une réunion. Il est obligé d'assister à une sorte de colloque sur les automitrailleuses qui est avec une conférence donnée par un général. Le général fait sa conférence et dit à l'Assemblée... Y a-t-il une question ? Et il se dit, oui, mon général, auriez-vous l'heure ? J'ai un train à prendre. Et en fait, sa carrière militaire s'arrête là. C'est absolument prodigieux. Mais alors, ce que j'ai découvert aussi, c'est que cet homme a un rapport avec la mer qui est incroyable. C'est un vrai marin.
Donc,
il a été régatier.
Pour le chasse-marée.
Ah, mais complètement, c'est un client. Il a été régatier, il a même participé à des régates victorieuses. Il a pêché au gros un peu partout, c'était un excellent marin.
Humphrey Bogart l'a testé.
Oui, c'est ça. Il devient copain.
Il l'a invité sur son bateau.
Oui.
Et lui a donné la barre pour vérifier qu'il savait naviguer.
Oui, c'est ça. Incroyable. Et il a même présenté à 12 ans et demi le concours d'entrée à l'école navale. Où il a été récusé quand même parce qu'il était trop nul en maths. Et il a cette phrase, la marine royale décida qu'elle pouvait continuer à naviguer sans moi. C'est merveilleux. Alors ce qui m'a étonné aussi, en dehors de l'humour incroyable, c'est la mémoire, le détail de tout ce qu'il a vécu dès le départ. Parce qu'il a une enfance, c'est la Dickens, quoi. C'est l'aventure permanente.
Au sens propre, parce que c'est un personnage anglais.
Oui, oui, incroyable. C'est-à-dire, pas d'adresse, pas de gîte, pas de... tout le temps nomade. Extraordinaire, quoi. J'en revenais pas.
Frédéric ?
C'est un sommet du chic britannique. Ah, oui. Et David Niven est la référence... des apprentis dandys qui rêveraient d'avoir cette espèce de flegme et de nonchalance. Mais on n'était pas sûr, enfin, c'était pas obligé que ce soit pareil à l'écrit. Il a, dans ses films, une élégance qu'il a également à l'écrit. C'est ça, la surprise du livre. Moi, j'avais pas lu quand c'était sorti chez Lafon, donc là, j'ai découvert les deux. Alors, j'ai une préférence pour le second, parce qu'il y a plus de portraits de stars hollywoodiennes.
C'est tout Hollywood.
Et quand on...
Qui est très bien raconté, d'ailleurs.
Oui, très, très bien. Et même mieux que mes deux références jusqu'alors, qui étaient Hollywood Babylon de Kenneth Anger et Mémoire d'une fripouille de Sanders. Je trouve supérieur à ces deux livres. C'est vraiment, si on veut se sentir immergé entre Greta Garbo et Charlie Chaplin et tout le monde à cette époque-là, des années 30 jusqu'à l'après-guerre, c'est éblouissant.
C'est parce qu'il m'a frappé, c'est qu'il est gentil. Or, Hollywood, oui, tout le monde est méchant quand même. Oui. Tout le monde est langue de pute.
Parce que c'est et moins trash que les livres que tu cites.
Oui. Il n'y a aucune cruauté.
Olivia.
Il y a même des discrétions incroyables. D'ailleurs, je sais pas, j'ai une énigme, parce que c'était un homme à femme aussi. Il avait des conquêtes multiples. Et il y en a une qui n'est pas nommée. Il la nomme TGV, très grande vedette. Et alors, on ne sait pas qui c'est, mais moi, ma culture cinématographique, parce que c'est à Hollywood, ne me permet pas de savoir.
Olivia.
Oh, merveilleux. Alors, moi, je pense comme Frédéric que le deuxième volume est plus amusant. Il y a des portraits, notamment de Greta Garbo, avec, pour la première fois, la réponse à la question, oui. Pourquoi a-t-elle arrêté le cinéma? Parce que, en fait, il la rencontre, elle devient une amie de sa femme, qui était suédoise, et c'est une sorte de beauté très naturelle. Qui part en pique-nique avec eux, et qui est plutôt rigolote. On découvre que les gens qui étaient jaloux, elle était tellement belle qu'ils disaient qu'elle avait des grands pieds.
Oui.
Mais lui observe qu'elle a des pieds absolument magnifiques, mais raconte que Robert Taylor, qui a joué le roman de Marguerite Gauthier avec elle, se souvenait qu'elle avait des robes avec des crinolines absolument sublimes, mais des vieilles pantoufles infâmes, parce qu'il fallait qu'elle ait des pantoufles et des chaussures confortables. Et puis un jour, il y a un déjeuner de famille, il pleut, et David Niven dit « on va rentrer à la maison », et elle dit « non, on va finir le déjeuner sous la table ». Et là, il faut imaginer Garbo, un peu vieillissante, mais toujours splendide, sous la table. Et à ce moment-là, David Niven a le courage de lui demander « Pourquoi est-ce que vous avez arrêté le cinéma ?» Et elle a cette phrase « J'avais fait assez de grimaces ». Génial, non ?
Oui, c'est beau.
Et moi, j'ai adoré Clark Gable, qui était son grand ami, qui se marie je ne sais pas combien de fois, et en même temps qui a cette phrase qui me plaît assez, qui n'est pas du tout post-MeToo. Hein. Si j'avais sauté toutes les gonzesses que je suis censée avoir sautées, je n'aurais jamais eu le temps d'aller à la pêche. Et il y a son amour
c'est
avec...
C'est pas incompatible.
Il y a son amour avec, pour Carole Lombard, qui était aussi extraordinaire, hein, qui pêchait, qui allait chasser, qui malheureusement périt dans cet accident d'avion. Vraiment, cette deuxième partie est fabuleuse.
Mais en même temps, il faut au moins survoler la première pour voir d'où il vient. Oui. Le mirage de la seconde partie disparaît. Hein.
Et c'est très émouvant cette première partie, parce qu'il y a par exemple son dépucelage avec une prostituée à l'âge de 14 ans.
Oui.
Très très belle histoire.
Avec une prostituée.
À la fois bouleversante et impubliable aujourd'hui, pense. Et puis il y a la mort de sa femme. Et au moment où sa première femme, quand elle meurt, il doit l'annoncer
le
à ses enfants.
Le récit est d'une pudeur absolument
c'est déchirant. Oui. Déchirant. Donc il n'y a pas que de l'humour phlegmatique, il y a aussi toujours vraiment une pudeur, une élégance.
Oui. Arnaud.
Écoutez, c'est assez rare pour être noté, mais j'en parle avec un copain qui me dit « Tu sais, j'ai failli mourir à cause de ce livre. » Parce que en fait, il a voulu jouer à un jeu que raconte David Niven, c'est dans la première partie justement, c'est le jeu des drapeaux. Il s'agit de boire suivant les couleurs.
Oui.
Alors, ils avaient commencé avec le drapeau américain. Alors, ils avaient mis du Porto pour le rouge, du gin pour le blanc et de la liqueur de gentiane pour le bleu. Et alors, Niven continue, il dit « Après, le drapeau français et le drapeau britannique ne furent qu'un jeu d'enfant, mais les Belges placèrent une énorme pierre d'achoppement sur notre route. Noir, jaune et rouge. Une bière brune servie de fondation à la chartreuse jaune et au Bourgogne. Mais ce fut la crème de menthe verte du drapeau italien qui m'obligea à me retirer de la compétition. » Et donc mon copain a joué un jour. Et il me dit quand on est arrivé au drapeau africain, là, j'ai failli mourir.
Bon, je crois qu'on peut conseiller à tout le monde. Hein. Enfin, c'est pas d'un emploi, si je parlais physique, hein, facile, parce que c'est encore une fois 1000 pages, c'est très lourd.
Oui.
Comme dirait Jean-Luc, ça a servi autrefois de balance, comme la traîne néant, tu te souviens, quand tu nous avais raconté que ça pesait juste un kilo.
Ça pesait le poids des nouveau-nés dans les cliniques, dans les maternités démunies de la Libération.
Voilà, donc on peut utiliser maintenant les mémoires de Niven. Voilà, et c'est chez Séguier. On reste dans l'histoire, et en partie aussi d'ailleurs, du cinéma, avec Ivo et Georges, le livre que consacre chez Grasset l'historien et documentariste Patrick Rodman à Ivo Livy, alias Yves Montand et Georges Semproun, un couple, si j'ose dire, qui s'est formé en juillet 63 à la Colombe d'Or à Saint-Paul-de-Vence. Montand, on le sait bien, d'origine italienne, enfant pauvre de Marseille, fils de communiste, déscolarisé à 12 ans et autodidacte, Semproun, né dans une famille plus aristocratique que je ne l'aurais pensé d'ailleurs, à Madrid, ayant fréquenté les meilleures écoles, dont, évidemment, ça, je ne peux pas dire mieux que l'hippocagne du lycée Henri IV. Lorsque la France est occupée, ils font deux choix opposés, Semprounant dans la résistance, tandis que Montand, bah, il se fait un nom en interprétant Trenet et Chevalier à l'Alcazar de Marseille. Et quand on lui propose de rejoindre le maquis, ben il oppose un refus catégorique et il file le parfait amour avec Édith Piaf quand Semprún, à ce moment-là, rentre du camp de Buchenwald où il a été déporté pour fait de résistance. Et ce sera le grand remords de Montand, c'est ce que j'ai le plus appris d'ailleurs dans ce livre. Ça se passe donc ça avant que les deux hommes épousent l'idéal communiste jusqu'à l'insurrection de Budapest en 56. Ensemble, ils ont dénoncé les crimes du stalinisme dans l'aveu de Costa Gavras, Semprún signant le scénario et Montand, vous le savez, incarnant Arthur Landon. Alors la force de ce livre, évidemment, c'est la complicité qu'il y a entre Rotman et ces deux hommes. Et c'est à Rotman que, à Moscou, en 90, Montand a avoué, au fond, je suis passé à côté de ce qui fait l'essence de l'existence, en parlant de son inaction pendant l'occupation. J'avais 22 ans et au lieu de me battre contre les Allemands, j'étais obsédé par la scène et par ma petite carrière. Olivia.
J'ai trouvé ce livre très intéressant. C'est « Comment peut-on être communiste ?»
Ne peut-on ne pas être résistant aussi ?
Absolument. Et moi qui n'ai pas une passion pour Yves Montand, sauf dans César et Rosalie, ou quand il chante Les Feuilles Mortes, là je peux pleurer, mais j'ai toujours aimé Simone Signoret. J'ai toujours pensé que c'était elle qui était l'intellectuelle du couple. C'était elle le cerveau. Ah ben, et là, je dois dire que la scène dans l'hôtel où effectivement tu as Montand qui confie à Rotman que couché sur son lit
en costume,
où tout d'un coup il rigole plus, il mime plus et il dit deux choses. Il dit que il a échappé aux miliciens vraiment par un coup de dé du hasard et que juste après il y a des copains de sa sœur qui sont venus pour lui demander de rentrer dans le maquis, mais qu'il était tellement indifférent au monde et au malheur du monde, parce qu'obsédé par la réussite, qu'il a dit « Vous voulez que j'aille en Corse ?» Parce qu'il ne savait même pas ce que c'était.
Avec le maquis.
Et que tout d'un coup, cet homme qui est dans le regret, je trouve, qui fend l'armure, est tout à fait bouleversant. Et là où Rotman est un très bon écrivain, la scène d'après, parce que je trouve que la mise en scène des deux destinées est vraiment passionnante, la scène d'après, c'est Semprún qui est à Buchenwald, où il revient après presque un demi-siècle.
Avec Rotman, qui
l'accompagne. Avec Rotman. Et il dit, il faut imaginer. Et tout d'un coup, on voit le parallèle entre les deux. Et waouh, moi, ça m'a drôlement remué.
Il faut expliquer que le livre est fait de manière, on dirait une tresse d'ailleurs.
Oui,
pas
tout
au sens
fait.
De Colombani, mais au sens de Rotman. C'est-à-dire que
je trouve que le livre est très bien écrit et
noué
très bien composé.
L'un et l'autre.
Et quand tout d'un coup, il y a Semprún qui, devant une vitrine, dit « c'était mon livre ».
Oui, alors il faut dire, quand il revient à Buchenwald, oui, et il retrouve son exemplaire de Hegel.
Hegel, oui, absolument. Hegel.
Dans la bibliothèque du camp.
Dans la bibliothèque du camp.
Ça, c'est très très émouvant.
Ça, honnêtement, t'imagines, ça vous bouleverse le cœur. Oui. Et puis après, on comprend très bien comment ces deux hommes ont été communistes. Montand, il raconte aussi que petit garçon, son père lui disait « Tu sais, il fabrique des routes en acier ». Alors il disait « Mais où ?» Dans la Russie de Staline, au paradis des ouvriers.
Mais le propre frère, d'ailleurs, il le raconte d'Yves Montand, s'est brouillé avec Yves parce qu'il considérait qu'il avait trahi le communisme.
Absolument.
Après 56.
Comment vraiment le communisme était une foi qui avait été léguée justement par son père.
C'est-à-dire, Montand était comme Gérard Philippe, il était compagnon de route. Il n'était pas comme son père inscrit au Parti communiste.
Et d'ailleurs, il y a une très belle scène avec Gérard Philippe.
Dans un café.
Dans un café, au moment où les chars rentrent à Budapest. Non, c'est un livre, moi, qui m'a beaucoup intéressé.
Arnaud.
Oui, c'est un peu le fameux effet qui se coule deux en un. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la biographie de Montand et la biographie de Semprún. Ouais. Je connaissais très vaguement, je ne savais pas du tout, par exemple, que Yves Montand avait fini la Seconde Guerre mondiale dans les bras d'Édith Piaf, qui effectivement...
Oui, parce que c'est... Ouais. En fait, la scène que raconte Rotman et que raconte Montand, c'est qu'il est avec Édith Piaf, il est à Paris, sur les Champs-Élysées, ils vont au cinéma et ils voient Montand avec Piaf, qui est en larmes, aux actualités françaises de 45, il voit quoi ? Les premières images des camps de la mort.
Et on ne sait pas pourquoi elle le quitte d'ailleurs.
Oui, c'est oui. Il y a un moment, elle met juste un mot. Hein,
Exactement. Et hop, c'est fini.
Alors, il y a des histoires. Moi, donc, je connaissais pas bien la biographie de Montand. Il y a une histoire extraordinaire avec Marilyn Monroe, quand même.
Ah, oui.
Parce que il avait été jeune. Il avait été coiffeur, Yves Montand.
Ouais.
Et à Marseille. Quand il rencontre Marilyn Monroe, elle veut justement se faire une couleur. Et il sait tout sur les couleurs. C'est magnifique. Elle est avec Arthur Miller. Elle se dit, mais le type, non seulement il est beau, mais en plus, il sait tout sur les couleurs. C'est quand même vraiment une très belle histoire. Il y a plein d'histoires comme ça. En revanche, je ne connaissais pas du tout la biographie de Sempoun. C'est tout ce qui se passe au camp de Buchenwald, le réseau communiste.
Il l'a raconté quand même dans ce.
Oui, mais moi,
l'expérience ou la vie.
Là, pour le coup, je suis désolé, je n'ai jamais lu les livres de Sempoun. J'ai découvert tout ça, et notamment cette idée du réseau communiste qui va lui sauver la vie en sous-main, qui dirige en sous-main le camp de Buchenwald. C'est quand même une histoire magnifique sur le communisme aussi. Hein. Parce qu'il y a quelque chose quand même.
Et après, tu as le retour en Espagne de Sempoun. Comme
oui,
militant
clandestin.
Clandestin et communiste dans l'Espagne de Franco.
Oui, parce que moi je trouve que Patrick Rothman, il se débarrasse un petit peu vite, si vous voulez, du communisme de Montand en disant c'est un communisme de naissance, par exemple. Il dit, à propos de Montand, il utilise deux fois l'expression tellement il en est content. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un communisme de naissance, un communisme de cœur? Et il dit, il est communiste par piété.
Mais
parce que son père, par affection.
Le père était intégriste du communisme.
En même temps, c'est une manière de minorer le communisme d'Yves Montand, comme si c'était un débile qui n'avait absolument pas réfléchi à la problématique.
Oh,
et en plus, c'est plus tenable en concernant Georges Sempoun, parce que justement, lui, c'est un fils d'aristocrate, et il ne peut pas être communiste de naissance, là, pour le coup. Et ses parents, d'ailleurs, étaient non seulement aristocrates, mais conservateurs. Il s'engage dans un réseau de résistance communiste. Il pouvait s'engager dans d'autres réseaux, mais non, il est communiste. Il est sauvé par les communistes à Buchenwald, et après il va avoir cette vie de militant clandestin dont il dit que c'est la plus belle partie de sa vie, Sempoun par ailleurs. Et donc voilà, et je trouve que il y a quand même des fois Rothman, là il est d'un anticommunisme qui n'est peut-être pas primaire, mais en tout cas certainement secondaire.
En tout cas la scène par exemple qui raconte très bien, parce qu'il les a accompagnés ensemble, le retour en avion dans la Russie de Gorbatchev pour assister à la projection de l'aveu avec le comédien et le scénariste à ses côtés, est une des scènes historiquement les plus fortes du livre. Frédéric.
Je suis peut-être un tout petit peu moins enthousiaste que vous, parce que je justement, cette construction tressée m'a rappelé le générique d'Amicalement Vôtre. Alors, c'est pas Kiss Cool, mais tu vois, c'est
génial,
ce générique,
justement.
Oui, voilà.
Oui, oui.
Tu vas et viens entre Brett Sinclair.
C'est surtout un truc de documentariste, en fait.
Voilà,
un montage parallèle.
Voilà, donc Danny Wilde, le mec un peu vulgaire, ce serait Yves Montand, et Brett Sinclair, ce serait Georges Sempoun, tu vois. Et puis, du coup, on fait un va-et-vient permanent qui est un peu fatigant à la longue, je trouve, surtout qu'il fait exprès des chapitres
même
très
si,
courts.
Si je suis pas exactement la chronologie, c'est ça aussi qui est intéressant. Voilà.
Oui.
Et puis on apprend tellement de choses. On apprend tellement de choses.
Justement, cette construction,
oui.
Elle est
non, mais c'est vrai que c'est. Il avait fait ses documentaires très réussis, Génération, là, avec Hervé Hamon. Oui. Patrick Rothman avait fait ça. Et on se demande pourquoi il a intitulé roman celui-là, parce que.
C'est vrai.
À part pour le plaisir d'enlever la lettre T de son nom de famille, peut-être.
Oui.
Non,
c'est vrai qu'il y a. Ce n'a
c'est
rien.
C'est l'éditeur qui l'a.
Oui.
Enfin, roman.
Est-ce que ça n'a rien un roman du tout, en fait? C'est un biopic. Comme ça. Et non, moi, ce que je me disais simplement après avoir lu ça, c'est que j'envie ces gens qui ont eu un rêve. Même si leur rêve a tourné à la désillusion, ma génération, et Arnaud le sait bien, nous n'avons pas eu ce droit à l'utopie. Et c'est pour ça que nous buvons beaucoup de vodka.
Jean-Louis. Oh,
c'est très beau ce que tu viens de dire.
Jean-Louis.
Voilà, oui, vraiment. Non, mais c'est vrai, oui. Ah ben, alors moi j'ai adoré le côté deux en un, comme disait Arnaud tout à l'heure aussi. Alors c'est une spécialité de Patrick Rothman aussi. Il a fait aussi Sarkozy et Villepin. Je me souviens, il a fait un livre sur Sarkozy et Villepin. Ce sont deux fauves aussi. Hein. Et là je m'en souviens, mais ça me laisse les images d'un péplum un peu.
Un péplum?
Oui, un péplum avec Gregory Peck et Charlton Heston peut-être. Tu vois, c'est deux monstres comme ça. Mais pourquoi je dis péplum? C'est parce que de quoi se souvient-on quand on a vu un péplum? On se souvient plus du décor, de l'époque, que des intrigues et des personnages, en fait, qui sont des espèces de monstres incroyables. Moi, ce que je me disais, ce genre d'homme n'est plus possible, quoi, c'est ça? Je veux dire, il y a non seulement cette époque qui a disparu, et en même temps, tu disais, cette façon de croire, d'avoir un rêve et de le prendre pour crédible, etc., de s'engager,
et ensuite, de se réveiller.
Ça n'existe plus, je veux dire. Tu te rends compte, tout ce qui a disparu, là, en très peu de temps, ça m'a absolument...
Moi, je trouve que les personnages, tu t'en souviens, parce que l'arrivée de Semproun en déportation, et on lui demande ce qu'il fait, il dit qu'il est étudiant, student, et le gars qui le reçoit, il dit que c'est un communiste au regard bleu et triste, ouais. ne va pas écrire student, mais stucateur, ce qui veut dire travailleur de plâtre, et qui va ainsi lui sauver la vie, parce que étudiant, il partait directement à la mort. Ouais. Moi, je trouve que c'est des choses dont je me souviendrai dans longtemps. C'est fiévreux comme livre.
Qui a un rapport avec ce que oui. tu dis, Olivia, quand tu dis que dans le couple, moi je les ai connus, oui. effectivement c'était vraiment elle, l'intello, et lui qui était plutôt le chanteur.
Oui.
Quoi
l'artiste. Pas qu'un peu. Moi je
Oui, attends, je termine. Oui. Et que là, ce qui est très émouvant, c'est qu'on voit qu'il y a aussi un couple dans ce sens-là, et que Semproun, s'il l'aime tant, si Montand aime tant Semproun, c'est parce que c'est l'intellectuel, l'écrivain, pas simplement parce qu'il est résistant, et qu'il aime chez lui, chez Semproun, ce qu'il aimait tant chez Signoret.
Il faut lire les mémoires de Costa Gavras qui sont sorties l'année dernière.
Absolument.
C'est un contrepoint parfait sur cette histoire. Ouais. Parce que par exemple, sur le Simone Signoret, elle ne voulait pas jouer le rôle de Liz London, la femme d'Arthur. Oui.
Parce qu'il y en a d'autres livres à évoquer.
Ce qui était très sympathique avec Yves Montand, c'est qu'il ne supportait pas l'espèce de pouvoir que s'arrogeaient les intellectuels sur les autres.
Ivo et Georges, c'est chez Grasset et c'est signé Patrick Rothman. Allez, Arbre de l'oubli, qui n'est pas le meilleur titre de la soirée, de la franco-canadienne Nancy Houston, c'est chez Actes Sud. 320 pages, donc ça c'est pour Jean-Louis aussi. Au début de ce roman, Shaina, que la romancière tutoie, arrive à Ouagadougou, c'est la terre de ses aïeux, et on est en 2016. Elle est américaine, elle est née en 1992, d'une procréation pour autrui. Elle est la fille métisse de parents blancs, d'une part la féministe, protestante, prof de littérature Lily Rose Darrington, et puis l'anthropologue juif Joël Rabenstein. Lily a été abusée dans son enfance, et la famille de Joël a été décimée par la Shoah. Un roman donc, vous l'avez compris, qui se déroule sur trois générations, et qui brasse tous les thèmes d'aujourd'hui. Je crois qu'elle en a oublié à tout cocher. Le racisme, le féminisme, la GPA, la recherche d'identité, les abus sexuels, les tragédies d'hier, bien sûr, de l'esclavage jusqu'à l'Holocauste. Il ne manque rien. Arnaud ?
Alors, j'ai eu du mal à rentrer dans ce livre. Et alors, j'ai trouvé le truc. J'ai commencé par le milieu. C'est-à-dire au moment, en fait, Lily Rose, la Wasp, rencontre Joël après... avoir connu chacun de leur côté des aventures diverses. Et c'est là donc que leur histoire d'amour commence. Et ils vont effectivement avoir cet enfant par GPA en choisissant une mère porteuse noire. Et donc, c'est quand même un livre absolument étonnant contre l'identité, avec une destruction assez incroyable, moi, je trouve, assez ironique, violente, presque punk en fait du concept d'identité, avec cette Wasp qui déjà donc va tomber amoureuse d'un juif, mais chacun ils ont déjà leur problème identitaire, c'est-à-dire qu'ils veulent s'échapper chacun de leur côté, de lui il veut s'échapper de sa famille juive, elle veut s'échapper de cette famille Wasp
est protestante.
Oui, ben dans Wasp, il y a...
Oui, mais je le traduis quand même pour
les auditeurs. Donc, white Anglo-Saxon Protestant. Et donc, et qui font donc cet enfant, et l'histoire commence avec elle. Alors, c'est très compliqué dans la construction, parce qu'on peut dire que de la même manière qu'elle veut déconstruire l'identité, elle déconstruit aussi le roman. Donc, encore une fois, moi, j'ai
commencé
par la fin, et après, j'ai lu le début, et tout était extrêmement limpide, mais soudainement, je veux dire. Je trouve ce roman extrêmement gonflé. Alors, évidemment, elle disait sur France Inter, je l'ai entendu un dimanche sur France Inter, elle disait « ce que j'écris est trop intellectuel ». Et elle avait l'air de se le reprocher à elle-même. Hein. Et effectivement, c'est plus des idées que des personnages. Hein. C'est plus une démonstration philosophique.
Parce que même cette Shaina, qui est quand même le personnage principal, hein, ouais. On a du mal à la voir incarnée. Quoi. Il y a quelque chose qui reste...
Non, aucun des personnages ne sont vraiment incarnés. Ce sont des idées. Ce sont absolument des idées, même si elle essaye de leur insuffler vie. Mais il n'empêche que ces idées, on ne les croise pas non plus à tous les coins de rue. C'est assez rare, finalement, d'avoir un grand livre contre l'identité comme celui-là.
Olivia ?
Moi, j'adore. Moi, je trouve qu'il faut faire peut-être un petit effort, effectivement, pour suivre la construction qui est quand même très architecturée.
Et byzantine, quand même.
On le sait que tu adores, puisque tu es sur le bandeau rouge en couverture du livre.
Ah bon, je ne savais pas.
Je n'ai pas vu le bandeau. Je l'ai eu sans bandeau. Qu'est-ce qu'il y a sur le bandeau ?
Il y a un livre fort en tourment où l'amour est la seule accalmie. Olivia de Lambertori.
Eh ben, écoute, je l'ignorais. Je trouve que... elle est toujours inattendue, Nancy Huston. C'est ça que j'aime. Toute son œuvre est construite autour de qu'est-ce que c'est que la maternité, elle qui a été abandonnée par sa mère lorsqu'elle était enfant, mais qui interroge cette question jamais avec du ressentiment, mais toujours avec le respect de la liberté de sa mère. Et là, je trouve que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est effectivement tout ce que nous... elle interroge tout ce qu'on reçoit en héritage et en tradition de ses parents, de sa famille, de tourments, et en même temps, elle y met tous les tourments du monde moderne. Et cette gamine qui est métisse, qui tout d'un coup se promène adolescente avec son père à Cuba, et elle se rend compte qu'on la regarde bizarrement parce qu'on se dit bah, c'est une prostituée avec un homme, moi je trouve qu'elle est extrêmement incarnée. Je trouve aussi que ce livre est une démonstration contre ce que les Américains appellent l'appropriation culturelle. Parce que justement, elle se met dans la peau d'une jeune métisse et elle prouve que la littérature, c'est se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre.
Elle se met pas dans la peau, elle la tutoie.
Oui, mais elle est quand même dans ses tourments, dans toutes les voix qui résonnent dans sa tête. Ouais. Et pour moi, la littérature, c'est ça.
Oui. Jean-Louis, est-ce que c'est ça pour toi ?
Alors, pour répondre à Olivia de manière directe, moi je suis comme elle, j'admire, mais vraiment très sincèrement, le courage que cet écrivain a depuis toujours, d'affronter, je ne dirais même pas d'affronter, de se rouler dans les problèmes les plus décourageants, et jusqu'à devenir un beignet de problèmes, un beignet d'auteurs. Je me roule là-dedans. Et je peux vous en donner une idée, parce que ça part dans tous les sens. C'est vrai que c'est un télo, c'est culturel, mais ça donne des pages où, par exemple, page 225, je vais vous dire de quoi elle parle, page 225. Je ne vais pas lire la page, je vais juste vous dire de quoi elle parle dans cette seule page. De col de l'utérus, de spéculum, de gel gluant, d'une pièce de Garcia Lorca, de colposcopie, de l'origine du monde de Courbet, de la caverne de Platon, de l'enfance d'un chef de Sartre, d'un bidet, de la valse aux adieux de Kundera et de la muqueuse féminine. Et après ça, Dieu lui-même intervient et donne son avis sur le col de l'utérus qu'on lui propose de semer, enfin...
C'est bien la preuve que les femmes sont supérieures à l'homme, en fait.
Ah, là, ouais, très super. Moi, j'avoue que cette page, et beaucoup d'autres, m'ont donné quand même le mal de mer, et en matière, en oui, tant que...
Pourtant, pour un chroniqueur du Chasse-Marée...
des références en matière
de mal de mer, M-E-R-E.
C'est complètement raté, comme...
Oh non,
complètement
non,
raté.
Je me lève.
Ce n'est pas grave, parce que Nancy Huston est un écrivain important, c'est un peu la Annie Ernaux canadienne, pour simplifier.
Enfin, elle est française.
Donc, je tiens à dire...
franco-canadienne.
Je la respecte infiniment, il n'y a pas de problème. Mais ce livre-là, on dirait le brouillon d'un livre à venir. Et c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé lire le livre si quelqu'un l'avait écrit. Mais là, personne ne l'a écrit. C'est ce qui fait que ça rend difficile la lecture. Oui. C'est des notations. Et alors, franchement, c'est pas un roman, c'est un catalogue. Tu as tout, tu as la Shoah, le viol, le métissage, l'esclavage, la quête de la mère biologique.
Enfin, mais c'est ça qui est bien.
Mais parce qu'elle a tout ça.
Tu prends un shaker de la victimisation.
La gamine.
Non, mais tu prends tout.
Mais elle y arrive quand même à faire tout tenir dans une histoire.
Ben non.
Voilà.
Non, elle y arrive pas. C'est ça le problème.
Elle a une généalogie.
Toi-même, tu dis que c'est pas incarné. Un roman
non incarné. Mais il n'empêche que tu lis ça quand même. C'est plus fort que ce qu'on peut lire d'habitude. Je suis désolé.
Ouais, mais c'est fort boyard un peu. Tu dois progresser dans la boue après. On t'envoie sur une catapulte. C'est
les vacances.
Justement, c'est les vacances. On n'a pas besoin de livres où les gens sont quintuplement victimes.
Ah non, moi je reprends de la vodka. Je vous.
Non, mais on peut conseiller le livre, mais pas forcément sur la plage, quoi.
D'autres livres de Huston, pas celui-là.
Est-ce que sur la plage, on a les neurones.
On peut le conseiller, mais pas pour le livre.
Alors, ça c'est Arbre de l'oubli, c'est Nancy Houston. Et pour la plage, moi, je vous conseille Sœur de sable, justement, chez Rivage. Encore un gros roman, pardon, Jean-Louis, de Stéphane Ehome. Un roman qui tient à la fois du thriller, de la comédie de mœurs, du roman d'aventure, qui se déroule à Porfou. On connaît bien, hein, Olivia Porfou, on y est souvent allé ensemble. Cette station balnéaire qui se trouve près de la mer Égée. J'ai du mal à la situer.
Elle est imaginaire, et effectivement.
Voilà. C'est entre Portofino et Corfou.
Voilà. Ouais. Ah oui. Corfou, c'est fini. C'est à Corfou que ces deux sœurs américaines, qui se haïssent, mais alors à un point que vous n'imaginez pas, ont hérité d'un oncle fortuné. Alors, une somptueuse villa, pour l'une d'entre elles, qui est la critique de mode Elisabeth Saint-Just, et un palace totalement décati, qui pourrait être un décor d'un roman de Bec Bédé, pour Rose Saint-Just, qui est une romancière alcoolique, contrairement à toi, Frédéric, et au succès déclinant, contrairement à toi. 60 ans après le duel, qui a opposé donc ces deux sœurs de sable, un compositeur de 95 ans, Alan Green, revient en Zeppelin, ça j'adore, en Zeppelin, à Porfou, où il était tombé amoureux d'un jeune gigolo qui a aussi fait chanter, mais je vais pas en dire plus, les deux sœurs de sable. Moi, j'ai vu un mélange de P.D. James et de Summerson Maugham dans ce roman de Stéphane Ehome. Olivia?
Oh ben j'ai adoré. Je ne voulais pas le lire, c'était trop gros. Le début est peut-être un peu compliqué.
J'ai un peu poussé, hein.
Tu m'as forcé, tu as sable. Eu raison. Moi, j'ai trouvé que c'était du pur divertissement, ça m'a enchantée. J'ai eu à la fois l'impression de jouer au Cluedo. D'ailleurs, l'une des héroïnes s'appelle Rose, comme Mademoiselle Rose, dans le Cluedo.
Absolument.
Tu as un côté polar vintage, Patricia Highsmith.
Oui, très Patricia Highsmith
Plein soleil. Moi, de toute façon, dès qu'il y a des oliviers, des lauriers roses et un palace Decati, j'ai envie de m'y installer.
C'est pas difficile, quoi. C'est
pas difficile. Et un cirque ambulant.
Après, il y avait un trapéziste argentin dont, moi, je suis tombée dans le panneau, je serais tombée dans ses bras comme une bleue. Et puis, en plus, c'est pas tous les jours qu'on lit une sorte de roman où vous avez un double de soi-même. Moi, il y a un double de moi. Elle s'appelle Amélia Lambertini.
Ah oui.
Eh oui.
Ah oui.
Elle travaille dans un magazine féminin qui s'appelle Babou and the City.
C'est elle qui va conduire
le compositeur qui va mener
en Zeppelin aussi. Voilà.
Alors elle m'a fait penser à quand j'étais ado, je lisais les enquêtes de Lily et Agi. Vous voyez, c'est un peu ça. Moi, j'ai marché, j'ai trouvé que c'était à la fois un faux polar, effectivement une comédie de mœurs, et aussi une sorte de roman futuriste, parce que ce dirigeable, c'est un mélange entre le Concorde et le Titanic.
Titanic avant le...
Voilà, il y a des fêtes, on boit beaucoup, j'ai eu envie de boire des cocktails sur la plage, et en même temps de savoir qui était ce couple qui rame dans un bateau pour aller lester un cadavre au fond de la mer.
Ça, on le sait. Enfin, il en parle au début et on ne le sait qu'à la fin.
Et je dois dire qu'il y a la mort la plus monstrueuse,
dégoûtante. Ah oui, c'est terrible. Terrible.
Mais je ne vous en dirai pas plus.
Frédéric.
Non, en fait, tu sais, ça me fait penser à quelquefois une femme très très belle, très bien habillée, très chic et tout, mais dont on n'arrive pas à tomber amoureux. Et ce livre, il est construit, il est impeccable, tout est en place. Oui, c'est du Somerset Maugham, mais sans le charme, sans l'humour, sans tout ça. C'est comme un pastiche, quoi. Donc on se demande à quoi bon. Quel est le but? Ou c'est comme un peu une BD de Loustal.
T'as rien aimé ce soir, à part David Niven.
David Niven, c'est un chef-d'œuvre.
Un des personnages dit on est là pour s'amuser.
Ouais, oui, mais regarde.
On s'amuse.
Oui, mais alors, par rapport à. Tu vois, on sent que le rêve de Stéphane Ehome, ce serait d'écrire comme David Niven. Mais le problème, c'est que.
Je rappelle
pas comme ça.
Deux de ces très bons romans, La Nuit de Fort Agar et Sheridan Square.
C'est un roman de ballon dirigeable, voilà. Tout est en place, mais il se regarde trop écrire. Et je trouve que du coup, on est extérieur. Et puis, alors, il y a les chapitres 38 et 39 qui rattrapent tout. Parce que ce sont donc les chapitres où il y a famille d'Audiez. Ah. Deux fois. Et là, je trouve qu'il y a une tentative vraiment novatrice d'écrire avec des notes de musique, ce qui est très original. Bon, ça s'appelle une partition, mais c'est trop court.
Ouais.
Jean-Louis, je te ferai remarquer que Trouville apparaît à la fin du livre.
Mais ce roman, là, avec un auteur qui va de long en large, entre deux époques, entre deux sœurs, qui maintient un suspense, parce qu'on dit on va peut-être apprendre quelque chose dans les prochaines pages, etc. Mais on n'apprend rien, en fait.
Vous êtes des rabat-joie.
Il m'a fait penser, cet auteur, à un caniche qui aurait enfoui son os quelque part, mais ne se rappellerait plus où. Ouais, un petit peu comme ça. Alors, il y a deux choses que je n'aime pas, en général, dans les romans. C'est les personnages d'écrivains. je trouve qu'il y a pléthore de personnages d'écrivains.
Sauf, que celle-là est tout à fait intéressante.
Non, mais
elle a connu en plus, un alors, l'écrivain, plus.
L'écrivain oui. En perte de vitesse, justement. C'est ça
la
qui
même,
est très à la mode.
William Boyd, récemment, oui. Il y avait la même.
Étonne-toi.
Il boit du vin blanc, pareil.
Oui. Étonne-toi qu'il soit toujours en train de nous peindre des écrivains.
Ça ressemble assez au livre de William Boyd.
Évidemment, en panne. Et puis, les récits où... où on alterne systématiquement deux époques.
Le présent et le passé.
Ouais, parce que je rejoins ce que dit Frédéric, c'est-à-dire ça a du coup un aspect construit.
C'est comme un bibelot, voilà. Très bien fichu. Oh.
T'as l'impression de...
C'est
pas ça la littérature, les gars.
Vous avez passé l'année à déplorer que les livres étaient trop simples.
Ou trop tristes.
Ou trop tristes, ou qu'il n'y avait pas assez d'architecture. Tout d'un coup, vous avez des livres qui
c'est
sont
un roman déconfiné.
Petit peu oui. Bah oui, mais quand même. De oui, manière
mais...
intéressante.
Oui, mais non nécessaire.
Et là, vous dites, voilà. Oh, c'est trop compliqué,
pas
c'est
d'urgence.
Fort Boyard.
Pas d'urgence.
En fait, vous
Arnaud.
Êtes des garçons de Koh-Lanta et écoute, pas de Fort Boyard.
T'as des phrases du genre, le phare lacérait le ciel de ses éclairs muets.
Ouais.
Oh, oui.
c'est généralement le cas. Ou alors, c'est la DCA.
Il y en a plein. Il y en a plein.
Connaître après en général.
On a cité une, t'es gentil.
Ou alors c'est une corne de brume.
Même le livre de Nancy Houston est mieux construit. Hein. Moi, la seule chose, il y a deux choses qui m'ont plu, c'est j'ai retrouvé le docteur Pozzi.
Alors dont le portrait est au mur.
On ne sait pas pourquoi d'ailleurs.
Bien sûr aussi.
Il
ressemble à un personnage terriblement, à un personnage très important.
En tout cas, ça m'a rappelé le magnifique. Livre de c'est Barnes, hein,
Julian Barnes, qui Julian est sorti Barnes, en début d'année, oui. Ouais.
Magnifique livre.
L'homme en rouge.
Ouais, son Pozzi, avec ce tableau en couverture. Et l'autre chose, mais j'aurais préféré qu'il y ait que ça, hein, c'est que je suis un amoureux des romans sur le cirque. Si vous voulez me faire plaisir, vous m'offrez un roman sur le cirque, je lui fais collection.
Il y a un cirque là.
Ben oui, il y a un cirque, mais il est juste à la fin et on.
Non, pas du tout, il est au début.
Il revient régulièrement.
S'il te plaît, dis pas ça parce qu'il va y avoir plein d'auteurs qui vont écrire sur le cirque, ça va être insupportable.
Donc voilà, c'est les deux choses qui m'ont plu, mais sinon, non, c'est très raté.
Sœur de sable que, personnellement, je vous conseille de lire, c'est chez Rivage et c'est signé Stéphane Eomalet. On termine avec Être un homme aux éditions de l'Olivier, dans une traduction de Paul Le Guivarche, recueil de 10 nouvelles de l'américaine Nicole Krauss, à qui on doit notamment L'histoire de l'amour, vaste programme. Et prix du meilleur livre étranger 2006. Et là, c'est partout, hein, aux États-Unis, au Japon, en Israël, en France, en Suisse, des portraits d'êtres humains saisis à des moments charnières de leur existence. Alors, il y a une danseuse qui est obsédée par le visage de l'acteur du Goût de la cerise de Kiarostami, ce qui nous permet de faire un lien avec le cinéma du début de notre émission. Une veuve qui accepte de vivre avec un homme que les services sociaux lui présentent comme le mari, depuis longtemps disparu. Le grand rabbin Zusha, qui est mort et qui a honte de n'avoir été ni Moïse ni Abraham. Pourquoi n'as-tu pas été Zusha, lui demande Dieu. Le thème de la judéité revient en effet tout au long de ce livre, où on croise aussi Jean-Louis Trintignant, Louis Garrel, si vous avez bien lu. Oui, je te signale, vous les croisez. Hein, je préviens Jean-Louis.
J'adore, Louis Garrel.
Sans oublier l'ombre, évidemment, moi qui m'a beaucoup frappé, de Philippe Roth, dont Nicole Krauss fut non seulement l'amie, mais aussi, elle a souvent revendiqué, la disciple. Être un homme, Arnaud.
Moi, j'adore cette romancière.
Qui est là, une nouvelliste.
Je l'ai découvert avec son précédent roman, Forêt obscure. C'est le premier que je lisais, qui est absolument magnifique. C'est évident qu'il y a il y a quelque chose de Philippe Roth dans son écriture, mais c'est pas exactement non plus pareil, parce qu'il y a toujours une espèce de fantastique qui rôde dans son réalisme, par ailleurs. Ce qui est très beau, là, je trouve. Bon, là.
C'est très dur à résumer, hein, évidemment.
C'est un livre.
C'est un peu un défi à la critique.
Ce qu'on voit, c'est quand même comment les Américains prennent la nouvelle au sérieux. Elles ont été publiées dans des revues, à plein.
New Yorker, Esquire.
Chaque année, ils établissent un volume des meilleures nouvelles parues dans l'année. Elle a obtenu deux fois d'apparaître dans ce recueil. Notamment, la nouvelle que je préfère, c'est celle justement sur Kiarostami, hein, sur l'acteur. auteur.
Qui est incroyable, oui. Ouais,
qui est une nouvelle, mais incroyable, et qui, à mon avis, résume tout l'art de Nicole Cross. Donc, c'est la meilleure. Elle a obtenu le prix de la meilleure nouvelle. Enfin, elle faisait partie de ce recueil. Il y en a deux, hein, qui ont eu la chance d'être sélectionnés. Alors, il y a quelque chose, effectivement, il y a la pensée juive est là. Il y a quelque chose de quasiment tout le temps talmudique au sens où il y a une lecture des événements très étrange, une interprétation difficile à faire. On est plongé. La dernière nouvelle qui s'appelle donc, qui donne le titre, Être un homme.
Ce qu'il faut comprendre, c'est être un être humain, hein. C'est pas être un homme.
Oui, non, il s'agit bien, non, c'est bien des hommes qu'elle parle. Elle commence, c'est une femme, hein, qui raconte qu'elle commence par parler de son père, puis de son amant, qui est un boxeur allemand, de son ami israélien, qui a été dans l'armée et qui raconte une opération d'attentat, et ses enfants. Et c'est comment les hommes sont en proie à la violence et comment ils réussissent à y échapper. C'est vraiment, il y a quelque chose de métaphysique et de très très beau. C'est vraiment un grand écrivain.
Frédéric?
Si on compare à Philip Roth, c'est pas le Roth des débuts, hein, parce que c'est pas très marrant. Hein. C'est le Roth de la fin, plutôt, qui analyse sa judéité et tout ça. Moi, je trouve que cette école de nouvellistes américains du New Yorker, ils sont quand même, alors ils sont très précis, très denses, c'est d'une grande finesse, c'est toujours bien fait, mais c'est appliqué aussi. Ça a tendance à être quand même assez scolaire et parfois...
T'as pas passé une bonne soirée, finalement?
Non, non, mais... je dois reconnaître que la première nouvelle, celle qui s'appelle En Suisse, où c'est un souvenir d'une cohabitation avec une colocataire iranienne qui s'appelle Soraya. Belle. Ce personnage de Soraya, pour moi, restera un symbole de liberté dangereuse et d'adolescente espiègle. C'est très, très beau ce qui lui arrive. Enfin, c'est horrible et très émouvant. C'est peut-être même la meilleure nouvelle du recueil pour moi. Je trouve qu'en fait, peut-être que si on personnalise les choses, Nicole Cross, qui était avec donc Jonathan Safran Foer, et qui a eu deux enfants avec lui, et qui a divorcé en 2014, je pense que tous ces textes parlent, si on essaye de trouver une unité, de souvenirs d'avant-mariage, un peu de « avons-nous choisi la bonne personne ?»« Fallait-il faire autrement ?»« Sommes-nous fidèles à nos rêves de jeunesse ?» Et toutes ces questions-là, pour moi, et tout ça rend ce livre magnifique. C'est pour ça que je veux terminer là-dessus. Quand même, soyons heureux.
Quand même de Jean-Louis et de Lisa. Jean-Louis.
Oui, moi j'ai trouvé ça. J'ai ressenti un immense soulagement déjà en commençant à le lire.
Pourquoi
et en
soulagement
terminant de le lire et en terminant de le lire. Un immense soulagement parce que je m'étais mépris sur le titre et sur la personne même de l'auteur que je ne connais pas. J'ai jamais rien lu avant ce livre de Nicole Cross. J'ai pas lu ses romans. Mais j'ai supposé immédiatement être un homme, que c'était un flambeau féministe, tu vois, enfin...
Et alors?
Eh bien, et alors, non. Et alors là, j'en ai ressenti un soulagement incroyable. C'est complètement... C'est être un homme, comme tu le disais, Jérôme, au sens être humain, quoi, c'est tout.
Un être humain.
Et donc, c'est toujours universel, quoi, je veux dire. On est dans des choses universelles. Ça parle du manque, du deuil, de l'absence, de la perte, enfin toujours, et tout sujet que tous les hommes ont en partage. Donc, et c'est très bien écrit.
Je suis désolé, mais l'émission est terminée. Olivia?
Pour moi, c'est presque philosophique. C'est vraiment à quoi ça sert de vivre. Il y a des nouvelles qui me bouleversent. La première, effectivement, sur l'adolescence est géniale. Celle dont le mari revient alors que son mari est mort est géniale. Et puis parfois, c'est très compliqué quand même. Parfois, je me perds. C'est profondément mélancolique et désespéré. Oui. C'est comment les enfants tuent le mariage, tuent l'amour. C'est quand même une chose qui revient souvent. Et puis tout d'un coup, il y a des épiphanies comme ce vieillard qui prend le bébé qui va être circoncis, qui monte sur un immeuble. Et c'est complètement fou et c'est splendide. Mais c'est aussi très compliqué.
Oui, c'est pas pour l'été. Nicole Cross après Nancy Houston, il faut éviter de faire les deux.
Pour, les deux d'un coup.
Voilà. Hein. Allez, c'est aux éditions L'Olivier, c'est Être un homme et c'est signé Nicole Cross. Le temps est venu des conseils et des conseils pour nos auditeurs, pour nos auditrices du mois d'août. On va commencer avec Olivia.
Avec un MOOC. MOOC.
Un MOOC.
Un MOOC.
Quel
magazine.
MOOC. Oui,
ah oui,
on connaît.
Et MOOC.
Et quel MOOC.
L'attitude mère. Est-ce que vous avez reçu ça? C'est un...
Mère MER ou...
MER.
Ah ben, futur employeur, pour Jean-Louis.
C'est pour Jean-Louis.
C'est spécial dédicace pour mon Jean-Louis.
Ah bon.
Cette revue a été créée par Olivier Frébourg. Donc on retrouve absolument...
On en parle à chaque émission maintenant.
Exactement. C'est devenu notre mascotte. Hein
bah oui. C'est un des rares écrivains de marine au sens
propre. Un écrivain de la marine.
Écrivain de marine.
Écrivain de marine. Oui, oui, oui. C'est un titre. site. C'est une académie.
Eh bien voilà. Eh bien, on retrouve toute la bande des Équateurs, la maison d'édition qu'il dirige. Donc il y a des textes de Tesson, il y a des textes. Il y a un texte moi que j'ai adoré qui raconte toute la pointe du rat, la baie des Trépassés, absolument sublime. Un texte pour toi, Frédéric, avec la Côte d'Argent, raconté par Jean-Paul Kaufmann, absolument sublime.
Ah oui.
C'est que des plumes qui racontent.
Et il n'y a rien sur la Côte Fleurie entre
comme
Houlgat et.
Comme ligne d'horizon. Si, si, il y a aussi sur la Côte Fleurie.
Ah bon, j'ai eu peur. Ouf. J'ai eu très peur.
Comment ça s'appelle?
Donc, alors, comment ça s'appelle?
Ça s'appelle Latitude Mer.
Ah, d'accord.
Aventure Nature Littérature.
Et on trouve ça en kiosque.
Et on trouve ça en kiosque, évidemment,
comme en librairie.
Depuis le 7 juillet.
Le conseil d'Arnaud.
Alors, un événement éditorial, c'est le premier tome des œuvres complètes d'Esparbeck.
Alors,
Esparbeck qui nous a quittés il y a tout juste un an, à l'âge de 87 ans, que Jean-Jacques Prouvaire et Georges Wolinski, excusez du peu, considéraient comme le dernier des pornographes, qui a écrit une centaine de romans porno, et je dis bien porno. Et
pour qui Delfeuille de Thon a une passion.
Pour qui Delfeuille de Thon, mais Virginie Despentes aussi a dit le plus grand bien d'Esparbeck. Là, c'est le premier tome il doit y avoir une dizaine de volumes qui sont prévus. Premier tome, là, il n'y a pas son best-seller qui est La Pharmacienne. 100 000 exemplaires vendus, hein, quand même, hein. Donc vous imaginez La Pharmacienne. Mais là, il y a Le Pornographe et ses modèles, qui était une autofiction qu'il a écrit dans les années 90, Esparbeck, mais qui vraiment, entre autofiction et autobiographie, qui est génial, où il raconte ce qu'il était réellement.
Oui, mais on est à l'antenne et tu es donc France Inter.
Tu conseilles de lire ça à la plage ou
alors là, oui, à la plage, c'est juste parfait. C'est-à-dire que et quand je dis porno, c'est pas érotique, hein, c'est vraiment
porno.
C'est du porno. Il avait une conception d'écriture des scènes de sexe, hein, jamais de métaphore, etc. Tout est très précis, beaucoup d'odeurs, etc. C'est génial. C'est un grand. Tout le monde l'a toujours dit. C'est un très grand écrivain.
Et c'est chez
À la Musardine.
À la Musardine, oui. Grand éditeur, évidemment, de textes érotiques. Mon conseil, c'est un tout bref roman qui est à la fois pour le MOOC d'Olivia et à la fois pour la revue de Jean-Louis. Ça s'appelle Maritime, au pluriel. Tout petit livre de Sylvie Tanette. Et c'est chez Grasset. Ah oui. Ça se passe sur une petite île de la Méditerranée où il n'y a que des pêcheurs qui dialoguent évidemment avec les créatures de la mer, comme chez Giraudoux. Et débarque un jeune homme qui fuit la dictature, qui sévit sur le continent et qui va trouver l'amour, le grand amour sur l'île. Et c'est raconté par un vieil homme qui prétend avoir 3000 ans, et c'est un petit livre absolument, qui est un conte, une fable absolument merveilleux, et que tout le monde peut lire, et où cette île est un refuge. Alors voilà, un petit livre idéal pour l'été, c'est Maritime au pluriel, et c'est signé Sylvie Tanette. Frédéric.
Si vous êtes un peu paresseux, parce qu'on a donné beaucoup de conseils, là je conseille un recueil de dessins d'humour, de l'acteur américain Steve Martin, avec Harry Bliss, qui est un très bon dessinateur du New Yorker. Et donc Steve Martin fait les légendes. C'est chez Baker Street, et le titre c'est Une abondance de pigeons. Parce que
Une abondance de pigeons.
Ce qu'il y a peut-être de mieux dans le New Yorker, c'est pas forcément les nouvelles, qui sont, comme je le dis, un peu formatées par les ateliers de creative writing, mais ce sont les dessins, toujours absurdes, toujours intemporels, métaphysiques. Et là, franchement, c'est une immense star aux États-Unis, Steve Martin. Vous vous souvenez, il était dans Un cadavre ne porte pas de costard. Et il est moins connu en France, mais c'est un peu un mélange de Louis de Funès et de Alain Chabat, si vous voulez.
Un mélange de Louis de Funès et d'Alain Chabat.
il a animé les Oscars très souvent. Il est vraiment très marrant, et donc il se lance dans le dessin d'humour. Alors il y en a un pour toi, Olivia, c'est très marrant. C'est une femme qui console son mari. Oui, j'ai un amant, mais je te promets que je n'ai jamais regardé Game of Thrones avec lui. Ça, je l'ai gardé pour nous.
J'adore. Je ne sais pas quel message tu m'envoies.
Et c'est chez Baker Street. Et enfin, le conseil de Jean-Louis.
De Jean Lebrun. Le titre, c'est « Ici, Saint-Pierre et Miquelon ».
Notre ami Jean Lebrun.
Notre ami Jean Lebrun, l'historien que les auditeurs de France Inter connaissent bien.
Sur Saint-Pierre et Miquelon.
Sur Saint-Pierre et Miquelon. Ici, Saint-Pierre et Miquelon, comme on dirait ici Londres, parce que c'est une chose qu'on a oubliée ou qu'on continue d'ignorer. Saint-Pierre et Miquelon est le premier morceau de terre française qui se soit rallié à la France libre. Et Jean Lebrun raconte cette histoire qui est formidablement romanesque. Et Lebrun raconte cette histoire dans une langue absolument merveilleuse avec tout son talent à la fois d'historien et d'écrivain.
Et c'est chez ?
Et c'est, ah oui, chez Bleu Autour.
Tous ces conseils, Bleu, vous trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup d'être venu ici au début du mois d'août. Merci Olivia de Lamberterie, Arnaud, Vivian, Frédéric Becbédé et Jean-Louis Hésine pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et à la technique aujourd'hui au théâtre de l'Alliance Française, il y avait, et je les remercie, Julie Garraud et Philippe Thibault. La réalisation était signée par Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parlera de cinéma. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.